Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Dernier temps de notre série consacrée à la paix, faire taire les armes. C'est le titre de notre série cette semaine. Après nous être intéressés lundi au plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient, mardi à l'Afrique et aux nombreux conflits qui minent encore le continent, hier à la situation dans le Donbass, intéressons-nous aujourd'hui aux embargos sur les armes. S'ils sont présentés comme un levier pour limiter l'aggravation des conflits, ils révèlent trop souvent l'impuissance de la communauté internationale. C'est le cas notamment du côté de la Libye et du Yémen, auxquels on va s'intéresser ce matin, de Sanaa à Tripoli. Des embargos en trompe-l'œil, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous avons reçu l'engagement de tous les participants. Ils ne fourniront plus aucun soutien à la Libye et devraient aussi stopper toute opération tant que durera le cessez-le-feu.
À Berlin, tous les pays, Turquie comprise, mais également les autres pays, se sont engagés à ne pas interférer dans les affaires intérieures de Libye, à ne pas envoyer de mercenaires, à ne pas envoyer des armes, à ne pas envoyer d'équipements nouveaux.
Aujourd'hui, tous les participants se sont engagés à ne pas interférer dans le conflit armé ou les affaires intérieures de la Libye. Cela fait partie des conclusions. Et bien sûr, il faut y adhérer, ainsi qu'à l'appel au silence des armes avec la fin de toutes les hostilités militaires.
Angela Merkel, Ghassan Salamé, envoyé spécial de l'ONU en Libye, et puis Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, tous appelant à faire taire les armes. C'était le 19 janvier dernier. Les principaux dirigeants impliqués dans le conflit libyen affirmaient à Berlin leur engagement, je cite, à réfréner toute activité exacerbant le conflit, appelant toutes les parties concernées à redoubler d'efforts pour une suspension durable des hostilités, la désescalade et un cessez-le-feu permanent. Pourtant, depuis 2011, toutes les parties en présence violent allègrement l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité et participent plus ou moins directement au conflit de l'Égypte à la Turquie, en passant par les Émirats arabes unis ou encore la Russie. Un constat du même ordre s'impose du côté du Yémen, où l'ONU a déclaré un embargo en 2015. Mais où, là aussi, les armes continuent d'abreuver les deux camps, les rebelles houthis soutenus et armés par l'Iran d'un côté, la coalition menée par l'Arabie Saoudite de l'autre, dont la France est l'un des principaux fournisseurs. Alors comment comprendre cet échec? Que nous dit-il des faillites du multilatéralisme et du droit international? Les intérêts économiques, financiers, auront-ils toujours raison des ambitions régulatrices en matière de vente d'armes? D'ailleurs, quels sont les cadres juridiques existants? Et puis enfin, quelles conséquences sur le terrain de cette incapacité à contrôler le commerce des armes? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin Aymeric Alluin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable plaidoyer armes à Amnesty International. On a également avec nous en duplex d'Aix-en-Provence Ali Ben Saad. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes professeur des universités et membre de l'Institut français de géopolitique de Paris 8. Vous entendiez tout à l'heure un extrait de cette conférence de Berlin. Il y avait de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui s'y sont retrouvés pour appeler à un cessez-le-feu en Libye, pour dénoncer les ingérences étrangères. On avait là Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien. On avait Vladimir Poutine. On avait évidemment les deux frères ennemis libyens. D'un côté, le premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, et puis le maréchal Khalifa Haftar de l'autre. On avait le secrétaire général des Nations Unies, on avait bien entendu l'hôte, la chancelière allemande, et tout ce petit monde a appelé à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes. Est-ce qu'on peut espérer qu'il soit enfin respecté, Aymeric Alluin, ou c'est absolument sans espoir?
Ah, il est trop tôt pour le dire, mais on le souhaite et on l'espère de tout cœur, en tout cas, parce que l'embargo sur les armes qui pèse sur la Libye depuis 2011 a été violé à plusieurs reprises. Et il a été violé au vu et au su de tous. Ce sont pas uniquement des petits matériels comme des armes légères qui violent l'embargo. C'est notamment l'exportation de gros matériels, des véhicules blindés. Des véhicules blindés turcs, des véhicules blindés fournis par les Émiriens, des drones chinois fournis par les Émiriens. Donc aujourd'hui, si on veut que cet embargo soit suivi des faits. Il faut absolument, non seulement évidemment que les États qui sont visés s'y contraignent et respectent les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont adopté l'embargo, et il faut que les États environnants mettent tout en œuvre pour que aucun navire transportant des matériels militaires n'accoste sur les côtes libyennes, que aucun mercenaire, par exemple, par voie aérienne n'arrive sur le territoire libyen. Donc il faut mettre en place un cordon autour de la Libye, consistant à contrôler les frontières, et il faut que les États, entre eux, coopèrent. Il faut la coopération policière, il faut la coopération douanière pour détecter les filières de trafic et faire en sorte que, lorsque celles-ci sont bien connues, et certaines sont bien connues, puisque certaines viennent d'États puissants, comme la Turquie, les Émirats, eh ben, il faut que les États comme la France pèsent de tout leur poids sur ces pays.
On reviendra à la fois sur le type d'armes qu'il y a aujourd'hui en Libye et comment aussi elles arrivent effectivement sur le territoire libyen. Ali Ben Saad, est-ce que vous pensez que l'on peut attendre une nouvelle ambition s'agissant de ces embargos, ou est-ce que là aussi c'est peine perdue? Et puis je voudrais aussi vous entendre sur la question peut-être de l'utilisation de ces embargos, l'utilisation politique, diplomatique de la chose. On a entendu à la conférence de Berlin Emmanuel Macron dénoncer la Turquie qui ne respecte pas ses engagements en matière d'ingérence. Immédiatement on a le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc qui a expliqué que c'était quand même peut-être pas à la France de faire des leçons compte tenu de son implication dans tout ça, et puis rappelant qu'elle avait été à l'origine quand même du conflit. Donc on voit aussi peut-être Ali Ben Saad que cette question de l'embargo, elle est assez largement utilisée, instrumentalisée à des fins diplomatiques, Ali Ben Saad.
Oui, et alors je rebondirai sur la dernière phrase de votre invité qui disait qu'il faut que la France pèse de tout son poids. Mais malheureusement, le problème du conflit libyen, c'est que, en même temps que les puissances étrangères sont devenues les acteurs majeurs et directs du conflit, qui échappent totalement aux Libyens, mais en même temps, ce sont ces acteurs eux-mêmes qui ferment la porte à toute possibilité de médiation, puisqu'il y a deux membres du Conseil de sécurité, qu'il faut rappeler sont la Russie et la France, qui ont neutralisé l'instance onusienne, et ils ont empêché, jusqu'à ce jour, il n'a même pas été possible à l'organisation onusienne de voter ne serait-ce qu'une résolution condamnant l'attaque, etc. Mmh. Et d'ailleurs, si je peux dire, des puissances comme la Russie ou la Turquie, si je peux dire, utilisent justement les contradictions de ces pays occidentaux qui, en neutralisant justement tous les organes de médiation, eh ben, ouvre la voie à l'interventionnisme, au libéralisme. Et donc, vous savez, donc la France a par ailleurs, si je peux dire, neutralisé l'Union européenne dans ses capacités, justement, de jouer un rôle médiateur dans la question libyenne, parce qu'elle soutient franchement un camp, celui de Haftar, parce qu'elle s'est livrée à une guerre vis-à-vis de l'Italie. Et donc, et d'ailleurs, c'est pour cela que la conférence s'est tenue à Berlin, alors qu'elle aurait pu se tenir quand même en France, qui est l'acteur le plus engagé dans cette histoire-là. Et donc, si vous voulez, l'histoire de l'embargo sur les armes, elle n'est pas du tout à détacher avec l'implication des acteurs. Vous savez, la France, c'est pas seulement son problème, si je peux dire, c'est pas seulement de livrer des armes, c'est qu'elle les utilise elle-même sur le terrain. Comment vous voulez ? Le problème de la Libye, c'est déjà les ingérences directes sur le terrain. Donc, c'est une question théorique de vouloir surveiller l'arrivée des armes en Libye, alors que ce sont des acteurs extérieurs, porteurs, propriétaires ou vendeurs de ces armes, qui les utilisent eux-mêmes directement sur le terrain. Voilà pourquoi la problématique en Libye est encore plus complexe. Si je prends le cas de la France, bon, on savait très bien, il y a eu d'ailleurs des agents de la DGSE qui sont morts, il y a des forces spéciales, etc. Il y a Et dans le cas de la Libye, la présence de l'Égypte dans le conflit, Égypte qui est contiguë, si je peux dire, de la Libye, avec plus de 1000 kilomètres de frontières, ben, tout cela, ça fait une possibilité d'ingérence directe incontrôlable, et tous les acteurs l'ont fait. Et c'est par l'Égypte que la France a livré beaucoup d'armements à Haftar, qu'elle a pu installer des systèmes de surveillance, etc. Mais le pire, vous savez qu'on a... On a trouvé donc des armes assez sophistiquées, les missiles anti-chars Javelin.
Les Javelin. Alors je vous en prie, poursuivez, mais on va y venir à cette question-là.
Oui, mais justement, c'est pour dire que finalement, arrêtons de parler de respect de résolution, etc. Et d'ailleurs, il y a une chose, puisqu'on y reviendra après, je voulais rappeler que juste après le sommet de Berlin, Haftar est rentré en ayant refusé de signer le cessez-le-feu. On ne peut pas croire que Haftar puisse avoir une décision autonome de ses soutiens, dont la France, les Émirats, etc. Le président Macron, quand il a fustigé la Turquie, il avait raison, mais il a omis les autres partis. Et donc, effectivement, c'est cette difficulté d'être juge et partie prenante. Et je crois que la France a vraiment... dans cette histoire libyenne, perdu tout son potentiel de crédibilité en tant que médiateur possible, et donc toute possibilité d'agir sur la question de l'embargo des armes, quand c'est elle-même qui le viole allègrement, pas seulement en fournissant des armes, mais en utilisant elle-même, directement, par ses propres forces, ces armes-là sur le terrain.
Alors, reviendrai sur d'autres armes. On va y revenir à Ali Ben Saad, mais on va essayer quand même de faire tourner un peu la parole. Et je voudrais la donner un petit peu à Aymeric Helouin, avant de faire peut-être un état des lieux sur les armes qui existent en Libye. Je voudrais vous entendre sur la question de la crédibilité, on vient de l'entendre. Alors, pas forcément de la France, mais de l'ONU. Parce que, à propos de la Libye, alors c'est pas la première fois qu'on constate, évidemment, l'échec de l'ONU dans un conflit. On en a énormément parlé à propos de la Syrie, mais on voit que c'est en train de se répéter là. Hassan Salamé disait dans une interview à Libération, je crois que c'était à la fin de l'année dernière, qu'il y avait du côté de la Libye un enjeu de crédibilité extrêmement fort. Je voudrais vous entendre là-dessus, jusqu'où est-ce que l'ONU pourrait être décrédibilisée dans cette question-là, avec cet embargo qu'elle ne parvient pas à faire respecter. Et puis ensuite, je voudrais vous donner un peu quelques détails techniques sur la manière dont on pose un embargo aux Nations Unies, et savoir quels sont les systèmes, les dispositifs qui sont mis en place pour s'assurer qu'il est respecté. Alors, j'entends bien qu'il ne l'est pas, mais il y a quand même des systèmes de contrôle qui existent. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble, tout ça. Aymeric Helouin.
Alors, si on regarde du côté des Nations Unies, rappelons-nous que les Nations Unies, ce sont d'abord les États. Les Nations Unies regroupent l'ensemble des États de la planète, donc 193, et ce sont les États qui décident de ce que doivent faire les Nations Unies en votant au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec des pouvoirs plus limités pour l'Assemblée générale. Donc, les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont celles qui vont décider des embargos. Donc, les États, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, décide de mettre en place des mesures ciblées pour faire en sorte que les armes n'arrivent plus vers tel ou tel protagoniste dans l'ensemble d'un pays ou une partie du pays. Ensuite, les Nations Unies sont tributaires des États pour la mise en œuvre des embargos. Il faut bien comprendre que les Nations Unies, comme vous le savez, n'ont pas d'armée propre, n'ont pas de police propre. Donc, quand les Nations Unies décident de quelque chose, la mise en œuvre de sa décision dépend étroitement de la capacité des États à mettre en œuvre les moyens humains, financiers, pour concrètement mettre en place des dispositifs de contrôle aux frontières maritimes, aux frontières terrestres, pour empêcher les armes d'arriver effectivement sur le territoire qui est visé.
Mais il n'y a pas un dispositif propre aux Nations Unies qui vérifierait que les uns et les autres prennent bien les engagements?
Tout à fait. Alors, les comités, chaque embargo sur les armes décidé par les Nations Unies concernant un pays. Donc aujourd'hui, vous avez 14 embargos des Nations Unies. Et les embargos sont suivis de la mise en place d'un comité des sanctions. Ce comité des sanctions est chargé de surveiller la mise en œuvre de l'embargo. Et il est à sa tête, il y a un membre des États, enfin un des membres représentant des États non permanents, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celui-ci fait un travail de direction. Il fixe les règles de fonctionnement de l'embargo, sa portée, les dérogations ou pas qui vont pouvoir être mises en place. Et pour accompagner la mise en œuvre de l'embargo, il a été décidé de mettre en place à partir des années 90, notamment à l'occasion de la crise rwandaise, enfin du génocide rwandais, des groupes d'experts. Donc vous avez la décision mettant en place l'embargo, un comité des sanctions chargé de suivre la mise en œuvre de l'embargo, épaulé par un groupe d'experts qui lui est indépendant. Le groupe d'experts qui est mis en place, c'est en général 3, 4, voire 6 personnes, ne dépend pas des Nations Unies. Il est indépendant des Nations Unies et a pour mission en un temps limité, avec des effectifs limités, de surveiller comment l'embargo est respecté, de noter les violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, de photographier les armes sur le terrain lorsque ces équipes ont le droit d'aller sur le terrain, d'aller voir les États membres qui sont obligés de coopérer pour avoir accès à les informations auxquelles ils pourraient avoir accès, sur les filières d'armes, etc.
Et s'ils constatent une violation, puisque c'est un comité de sanctions, ils imposent une sanction, normalement, en théorie.
Alors, c'est noté dans le rapport du groupe d'experts. Le groupe d'experts fixe des recommandations. Il y a un filtre, ensuite, qui est le secrétaire des Nations Unies. Certaines choses, on peut décider de les retirer. C'est arrivé notamment sur le Soudan. Il y a eu, à un moment, les Chinois, à l'époque, avaient fait pression pour retirer un certain nombre d'éléments qui les incriminaient directement. Ensuite, effectivement, le comité, donc il y a à rendre compte au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce rapport. Est-ce que des sanctions sont prises ? Les sanctions peuvent être prises contre des individus, par exemple. Mais les sanctions ne sont jamais prises contre des États.
Sur la Libye, par exemple, c'est arrivé ? Il y a eu des sanctions ?
Il y a le gel d'avoirs qui ont été mis en place pour empêcher des individus d'acheter des armes, de donner accès à de l'argent pour acheter des armes. Il y a des interdictions de transport, enfin de voyage, qui ont été mises en place.
Donc qui ont touché des intermédiaires ?
Oui, c'est ça. Mais ce ne sont pas les États, proprement dit, qui sont visés.
Bien sûr. D'accord.
Parce que on imagine mal des États se sanctionner entre eux. D'ailleurs, si on regarde bien, la France, par exemple, aujourd'hui, ne devrait plus exporter d'armes aux Émirats arabes unis, ni à l'Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Égypte est soupçonnée d'avoir violé l'embargo, et que ça fait partie des critères que doivent prendre en compte tout État lorsqu'ils vendent des armes à un pays. Est-ce que ce pays respecte ses engagements internationaux ? Les Émirats arabes unis, ce sont l'un des premiers clients de la France. Les Émirats arabes unis violent allègrement l'embargo sur les armes. Est-ce que la France a cessé de vendre des armes aux Émirats arabes unis qui violent l'embargo à destination de la Libye ? Non. Donc il y a aussi, derrière tout ça, effectivement, comme le disait votre invité, un enjeu politique où la France, a priori, est en perte de visibilité et d'orientation stratégique. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle est emmêlée, empêtrée dans ses contradictions et sa nécessité de parler avec tout le monde. Et donc on ne sait pas où elle va.
Ali Ben Saad, alors je reviens justement sur l'exemple que vous preniez tout à l'heure, je voulais pas qu'on aille trop vite, mais on va pouvoir y venir, parce que effectivement en juillet 2019, il y a des armes qui sont retrouvées et récupérées par les forces du gouvernement libyen, soutenues et reconnues, rappelons-le, par les Nations Unies, lors d'un raid dans un camp de rebelles du maréchal Haftar, et parmi ces armes, on retrouve un certain nombre de missiles anti-chars de type Javelin. Alors j'explique en quelques mots, ce sont des missiles qui ont été développés par les États-Unis, produite aux États-Unis, avec un système de verrouillage de la cible et d'auto-guidage par infrarouge. Comment ces missiles, Ali Ben Saad, se sont retrouvés dans les camps des rebelles syriens ?
Libyen. Un camp de rebelles, c'était le poste de commandement de Haftar de l'attaque de Tripoli. Alors, la ministre de la Défense a donné une explication qui, pour sa première partie, est vraie et crédible. Elle a dit, parce que normalement, c'est des armes qui sont achetées aux États-Unis et qui ne peuvent être cédées à une partie tierce qu'avec l'accord du vendeur. Elle a dit qu'il n'a jamais été question de vendre ou de donner ces armes aux combattants libyens. Par contre, elle a dit qu'ils ont été déposés pour être désamorcés, etc. Alors, faut pas raconter d'histoire. S'il fallait désamorcer ces engins, il y avait, y compris dans l'espace maîtrisé par Haftar, un tas de lieux sécurisés. Là, il s'agissait d'un QG de campagne et d'une attaque, précisément. Cela signait le fait que non seulement il y a utilisation d'armes françaises en Libye, mais qu'il y a utilisation part des forces françaises de ces armes-là, pour lesquelles, de toute façon, les forces de Haftar n'étaient pas préparées. C'est des armes très sophistiquées. Et c'est pour ça que je vous dis, la problématique embargo en Libye, elle est encore compliquée par le fait que les acteurs qui enfreignent l'embargo sont eux-mêmes acteurs directs, ingérants directs dans le conflit et sur le terrain. Donc comment voulez-vous contrôler quand ce sont ces forces-là ? D'abord, vous avez deux grands de puissance qui sont à l'intérieur du Conseil de sécurité que sont la France et la Russie, donc qui sont censés être les maîtres d'œuvre du contrôle, qui sont impliqués justement dans ce trafic d'armes, mais aussi qui sont directement sur le terrain. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus complexes. Maintenant, il y a aussi toutes les armes fournies par la France et qui participent. Vous savez, il y a eu beaucoup d'émoi dans le bombardement de ce camp de rétention de migrants où il y a eu des dizaines de morts. Eh ben, c'est des mirages vendus par la France aux Émiratis qui ont procédé à ce bombardement. Le rapport de l'ONU le dit. Alors, il ne cite pas le pays, mais tout le monde le sait. Le même rapport de l'ONU disait que il y a un pourcentage de près de 40% des bombardements qui sont faits par les forces de Haftar, ce sont directement des forces aériennes émiraties et égyptiennes et qui les font. Donc vous voyez, c'est ça qui complique, c'est-à-dire qu'il y a en fait cette intervention directe. Alors on a beau fustiger la Turquie, et c'est vrai que c'est un problème, que son intervention d'ailleurs gêne y compris ses propres alliés, parce que ils craignent d'y voir une forme de tutelle. Mais on a créé les conditions à la Turquie, on l'a légitimé pour intervenir de cette façon-là, parce que il y a violation allègrement, non pas seulement de l'embargo sur les armes, mais viol en fait de tous les processus de médiation internationaux, etc. Et donc le problème, il est d'abord politique. Et c'est la France, en tant que grande puissance, qui a, si je peux dire, mis la Libye dans une situation d'impasse, c'est-à-dire une exacerbation des ingérences extérieures, mais en même temps la fermeture de toute possibilité de médiation. Eh bien, ça ouvre une voie royale à ceux dont la pratique diplomatique est plutôt une sorte de brigandage, c'est-à-dire la Russie, la Turquie. Et c'est pour cela qu'elles sont en train d'imposer une sorte de condominium sur la Libye. Et donc, le problème, j'y reviens, est encore une fois politique, et je pense la France est en train de se tirer une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'en décrédibilisant, en marginalisant l'ONU, c'est un instrument de médiation dont elle a besoin ailleurs, au Sahel, etc. Comment, c'est-à-dire que elle se départit elle-même de possibilités d'intervention, etc.
Vous parliez Ali Ben Saad à l'instant de la Turquie. Peut-être on va entendre justement un témoignage du président turc et on en reparle tout de suite avec vous, Emre Kelvin.
Nous avons donné et nous continuerons à donner toutes les formes de soutien au gouvernement de Tripoli qui lutte contre un général putschiste soutenu par les pays arabes et les Européens.
Voilà, alors on entendait à l'instant Erdogan qui lui affirme assez clairement son soutien à Al-Sarraj. Il a au moins cette qualité, Erdogan, c'est qu'il est clair sur le soutien. Et par ailleurs, il est assez cohérent parce qu'il soutient quand même la partie qui est officiellement soutenue par les Nations Unies. Donc il a au moins cette vertu-là, le président turc, on peut lui reconnaître parce que c'est pas le cas de tout le monde. On parlait de la France. La France, normalement, elle devrait soutenir, en tout cas si elle reconnaît les décisions prise par les Nations Unies, elle devrait soutenir le Premier ministre du gouvernement d'Union Nationale, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle soutient le général, le maréchal Haftar à l'Est. Mais Emre Kelvin, je voudrais revenir un instant sur les fameux missiles américains dont je parlais. Je vous ai vu un peu dos de linée, froncer les sourcils en entendant la version qui est, c'est vrai, celle de la ministre de la Défense, c'est-à-dire à savoir, bah voilà, ces missiles qui sont des missiles américains mais achetés par la France, se sont retrouvés là parce qu'ils devaient servir à une unité militaire dans le cadre d'une opération antiterroriste et que donc on les a entreposés ici le temps de les détruire. Pourquoi est-ce que vous doutez de cette version-là? Et si c'est pas cette version-là, laquelle pourrait-on imaginer?
Il y a plusieurs scénarios possibles, mais déjà, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Français avaient l'autorisation de déployer ce matériel sur un théâtre de guerre comme la Libye? Parce que les Américains, en général, vont contrôler également là où vous déployez les équipements que vous leur achetez.
Il faudrait une autorisation, normalement.
Oui, bah, par exemple, lorsque la France a acheté des drones Reaper aux Américains, pour équiper la force Barkhane au Sahel, agissant au Sahel. Et le Congrès américain a demandé où il comptait les déployer. Et donc oui, les Américains, on peut les critiquer sur de nombreux aspects, mais sur le contrôle des exportations de ventes d'armes, ils ont parfois un prisme qui n'est pas le nôtre, où le prisme américain vise à contrôler, alors que le prisme français vise pas à contrôler a posteriori, c'est-à-dire quand les armes sont vendues sont sur le terrain, mais à mettre le paquet avant, c'est-à-dire au moment de l'évaluation des autorisations. Alors, je pense qu'on n'aura jamais véritablement la réponse. En tout cas, voir des équipements aussi sophistiqués tomber entre les mains de Monsieur Haftar, ça soulève de nombreuses questions. Visiblement, elle avait un peu réponse à tout, la ministre. Donc, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. En tout cas, il a un peut-être, on peut se questionner sur la légitimité de ce type de matériel quant à se retrouver sur ce type de territoire. C'est des missiles anti-chars. Qui avait besoin de missiles anti-chars au sein des Français présents sur place? Là, encore une fois, il y a un manque de transparence. En France, tout ce qui touche aux opérations extérieures, aux questions de défense, de vente d'armes, il n'y a pas de débat et on préserve une impunité, une opacité totale. Donc il serait temps d'avoir d'ailleurs des débats sur ces sujets-là, quoi.
Ali Ben Saad, il y a évidemment beaucoup d'armes aujourd'hui sur le terrain libyen. On parlait des missiles anti-chars, mais il y a des blindés, il y a des drones aussi qui sont vendus par la Turquie, par les Émirats Arabes Unis. Il y a énormément de matériel. Peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière, Ali Ben Saad, pour comprendre comment est-ce que tout ça arrive sur le territoire libyen et rappeler que la Libye a fait l'objet de très nombreux embargos. Dès 1978, les États-Unis interdisent la vente d'équipements militaires au pays. Un peu plus tard, 80-82, c'est le pétrole qui est touché par les sanctions américaine. Avril 92, le Conseil de sécurité de l'ONU prend une résolution sur les armes. Mais le problème, c'est que plus vous mettez des sanctions et plus vous mettez des embargos, et plus vous construisez un certain savoir-faire en matière de contournement, Ali Ben Saad. Elle est devenue, la Libye, d'une certaine manière, maître en matière de contournement d'embargo. Je voudrais qu'on essaye de comprendre comment on fait venir sur le territoire libyen ce type d'armes. Est-ce qu'on a un peu connaissance des réseaux, des filières par lesquelles tout ça passe, Ali Ben Saad?
Alors, je vais y revenir, mais juste après, j'ajoute une précision pour les missiles anti-char Javelin, qui décrédibilisent un peu la version française. D'abord, elles étaient sur un terrain où il n'y a pas d'activité terroriste. C'est connu, je connais très bien cette région, le terrain, etc. Les activités terroristes sont au sud, sont à l'est. Ensuite, elles étaient dans un espace qui, à moins de 100 kilomètres, et où il y avait deux seuls belligérants, les forces loyales du gouvernement d'union nationale et les forces de Haftar.
Ali Ben Saad, pardon, je vais me faire l'avocat de la ministre de la Défense, mais il est peut-être préférable de mettre ce genre d'armes dans des endroits, pas forcément au cœur, précisément des zones où vous avez des groupes terroristes. Donc peut-être que là, de ce point de vue-là, l'argument
est... Pourquoi se trouve-t-elle dans un endroit où il y a deux belligérants uniquement qui sont en train de se combattre et on n'a pas encore vu de terroristes avoir des chars très perfectionnés pour qu'on doive utiliser ce type d'armement, à moins de considérer les forces de Sarraj comme étant terroriste.
J'entends le questionnement. Sur les filières, sur les réseaux, Ali Ben Saad,
oui, alors, sur les filières, effectivement, elles sont très anciennes. Je peux vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu le soulèvement contre Kadhafi et qu'il y a eu un embargo contre les armes, l'Algérie, par exemple, en a livré par des vols nocturnes, par les ports, ou alors, vous savez, les Libyens étaient venus en Algérie, ils ont noyé le marché des devises et épongé l'achat de véhicules 4x4 qu'on pouvait facilement transformer en armement. Il y a aussi, pour le petit matériel, etc., toute la filière saharienne. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre de ce conflit, qu'il y a l'armement libyen lui-même. Ce qu'a fait Kadhafi, en fait, c'est que quand il a senti qu'il allait tomber, il a d'abord ouvert tous les stocks d'armement, et les rebelles aussi en ont pris. Donc déjà, il y a beaucoup de matière pour, si je peux dire, le petit armement léger, voire moyen. Maintenant, pour ce qui est du gros matériel, ben d'abord, vous avez la contiguïté avec l'Égypte. Ça permet tout. Ça permet tout. Et donc, une bonne partie des armes qui sont vendues à l'Égypte sont employées sur le terrain libyen. Mmh. Ensuite, par exemple, la France a livré de l'armement à Haftar par le biais de, justement, du territoire égyptien. Maintenant, vous rappeliez les anciens embargos, etc. Je pense que Kadhafi avait du flair. Et que, effectivement, il était en train de développer certains armements un peu sophistiqués, mais au contraire de Saddam Hussein, il a compris qu'il y avait un basculement et il s'est rangé complètement sur les Américains. Il a procédé à la destruction des armes chimiques et autres qu'il était en train de développer, et il était devenu, ce qu'on oublie, un allié complet des Occidentaux. Mmh. Et donc, toujours pour dire que la question des armes est liée aux questions politiques.
Ouais, ouais.
Et c'est comme ça que le régime de Kadhafi, qui a quand même alimenté, lui, réellement le terrorisme, contrairement à Saddam Hussein, qui était un pouvoir dictatorial, etc., mais qui ne s'est pas aventuré à des pratiques terroristes à l'extérieur de ses frontières. Et donc, Kadhafi a pu, si je peux dire, s'adapter comme ça. Mais il est vrai qu'avant la levée de l'embargo partiel en 99, total en 2003, il y avait toutes les filières subsahariennes. Et il y a un grand trafic, en fait.
Oui, il y a évidemment tous les réseaux qui sont là, qui permettent effectivement de faire rentrer ces armes sans difficulté. Émeric Helouin, je voudrais qu'on s'intéresse quelques instants au cas particulier de la France, qui visiblement n'a pas l'air de respecter complètement, disons-le comme ça, l'embargo sur les armes concernant la Libye. Regardons comment normalement on devrait procéder lorsqu'on vend des armes à l'étranger. Il y a une entité qui s'appelle la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre. C'est une entité qui a été créée il y a très longtemps, c'est en 1955. Alors c'est vrai que depuis, ça a évolué, il y a un certain nombre de réformes, 92, 2012, même plus récemment, ça a changé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Et qui a la main là-dessus? Qui décide finalement?
Oui. Alors, en France, le principe, c'est la prohibition des exportations de matériel de guerre. Donc, le principe, vous n'avez pas le droit de vendre du matériel de guerre. Vous avez cette fameuse commission, qui est une commission interministérielle, donc la commission d'études à l'exportation de matériel de guerre. Donc, dedans, vous avez trois ministères à voie délibérative, Bercy, Affaires étrangères, Défense. Le secrétariat de cette commission est assuré par un service du Premier ministre, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, et c'est le Premier ministre qui, in fine, donne les autorisations d'exportation, donc les licences d'exportation, on les appelle ainsi, après évaluation de cette siège, du risque attaché aux exportations, l'avis qui est rendu par la CIEMJ, puisque finalement ça se traduit par un avis, n'est pas contraignant. C'est-à-dire que le Premier ministre peut décider de ne pas suivre l'avis. Dans les cas les plus compliqués, c'est le président de la République qui va trancher. C'est arrivé notamment sur la question de la fourniture de munitions pour canon César à l'Arabie Saoudite. C'était en 2016, de mémoire. Les feux étaient au vert pour arrêter l'exportation de munitions. munitions. Et puis finalement, la présidence de la République a tranché et l'autorisation a été donnée de livrer des munitions. Donc, le système administratif français et son système politique contrôlent les exportations. On ne peut pas laisser sortir n'importe quoi. Là où le bât blesse, c'est que la France, par contre, n'a pas de loi précise, complète, exhaustive, permettant de contrôler, par exemple, l'activité des courtiers, ceux qui interviennent entre le marchand et l'acheteur, ceux qui servent d'intermédiaire.
Alors qu'ils sont, ils sont décisifs parce qu'ils sont toujours présents en réalité.
La plupart du temps, oui, ils sont présents. Ils sont beaucoup plus cachés aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément d'affaires comme celles liées à Victor Bout, Léonine Minine, pour la partie étrangère. En France, vous avez eu Robert Montoya, par exemple.
Sur les ventes d'armes en Côte d'Ivoire. Il y a Takedine, évidemment, qu'on connaît bien.
Tout à fait. Donc, aujourd'hui.
Dont le nom était apparu dans l'affaire Karachi.
Voilà, exactement. Ils sont un peu plus discrets. Mais il y a une survivance. Et vous avez d'autres personnages comme Jacques Monsieur, courtier en armes belge bien connu. Qui aurait notamment aidé à fournir des armes à l'Iran.
Et on ne s'est jamais dit en France que peut-être il serait pas mal de contrôler un peu plus justement ces courtiers.
On se l'est dit, il y a eu un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement au début des années 2000 et qui est resté dans les cartons et qui a été abandonné officiellement, on peut le dire, à partir de 2012-2013. Pareil, il y avait un projet de loi sur la répression pénale des embargos. Ce projet visait à doter la France d'une infraction juridique permettant de sanctionner de façon efficace tous ceux qui violeraient les embargos sur les armes. Mmh. Ce projet de loi a été abandonné également, alors que c'est le gouvernement lui-même qui avait dit on a besoin de ce projet de loi, ça avait été annoncé au début des années 2000, pour renforcer l'arsenal français législatif, et ça répond à une exigence du Conseil de sécurité. Et qui est membre du Conseil de sécurité? C'est la France, notamment, membre permanent du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité avait dit en 1998, les États, parties, Nations Unies, doivent tous adopter une incrimination juridique de l'embargo sur les armes afin de rendre pleinement efficaces les embargos que nous, membres des Nations Unies, décidons.
Et est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, Aymeric Helouin, d'introduire dans ce processus qui permet la vente d'armes les parlementaires, le Parlement?
Moi, ça me paraît indispensable. Les parlementaires, aujourd'hui, sont complètement absents sur les questions de vente d'armes.
Il en a été question à un moment.
Il en a été question à un moment. Là, on a une mission d'information qui a été mise en place par la Commission des Affaires étrangères, à défaut d'une commission d'enquête sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. On espère que cette mission d'information proposera des pistes pour que les parlementaires puissent au moins agir sur le contrôle a posteriori. Le contrôle a priori, c'est-à-dire au moment de donner l'autorisation, serait plus compliqué puisqu'a priori, il faudrait une réforme constitutionnelle. Mais que déjà nos parlementaires se saisissent de ces questions et puissent exercer un contrôle a posteriori de l'action du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça devrait être fait. Et notamment, je me souviens à l'époque de l'exportation de missiles Milan qui était envisagée à la Libye. Où était le Parlement? Que faisait le Parlement pour critiquer cette vente envisagée?
En quelques mots, Aymeric Helouin, et puis ensuite, on va s'intéresser au Yémen. On va retrouver Laurent Bonnefoy, mais il y a un pays qui, visiblement, a l'air un peu plus en avance sur ces questions-là que nous, c'est l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots comment ça se passe? Et peut-être rappelons que l'Allemagne, elle, avait décidé de prolonger l'interdiction des ventes d'armes à destination de l'Arabie Saoudite à cause de son implication dans la guerre au Yémen dont on va parler dans un instant. Donc, comment se fait-il qu'en Allemagne, ça marche mieux?
Parce qu'en Allemagne, il y a un débat qui est plus fort, qui est historique, qui est lié à l'histoire, comme vous le savez. Et donc, le Parlement joue un rôle plus important en termes de contrôle. C'est dans la culture parlementaire allemande. En France, vous n'avez pas de culture parlementaire sur le sujet. Ça commence à bouger depuis 2018, mais de là à dire qu'il y a une culture parlementaire sur le contrôle des ventes d'armes, on n'en est pas encore là. Les Allemands sont un peu plus en avance que nous sur ce sujet-là. Le système de contrôle ressemble un peu à celui français, avec une autorité une présence très forte de l'exécutif dans la prise de décision, mais le Parlement est informé et surtout le gouvernement répond précisément aux questions qui sont posées, ce qui permet aux parlementaires de donner de l'information à la société civile, aux médias et d'agir.
Donc il faut redonner ici en France un rôle aux parlementaires.
Il y a deux choses à faire, c'est faire en sorte que l'État se réapproprie le respect des normes et fasse tout pour faire respecter l'embargo sur les armes. Si l'embargo sur les armes n'est pas respecté depuis des années en Libye, c'est parce que l'État français est défaillant et que nos politiques français, les parlementaires, se saisissent de ces questions-là pour éviter que un jour, les populations civiles payent le prix fort.
Direction le Yémen.
Vous ne savez peut-être pas grand-chose des victimes civiles, de ce qui est en train d'arriver aux Yéménites. de l'horreur quotidienne de cette guerre. Malheureusement, beaucoup de Yéménites ont, eux, appris à connaître vos pays à travers les armes qui ont détruit leurs maisons et tué leurs familles. Il est choquant que 19 États qui ont signé ce traité, dont 3 qui l'ont ratifié, aient quand même décidé de vendre et de livrer des armes à l'Arabie Saoudite depuis que cette guerre a éclaté. J'appelle tous les États à cesser immédiatement de livrer toute arme susceptible d'être utilisée par les parties au conflit. Merci.
Voilà, témoignage d'une militante yéménite pour les droits humains, extrait d'un documentaire « Mon pays fabrique des armes » d'Anne Poiret qu'on avait reçu ici même autour de ce sujet, sur justement ce documentaire, un excellent documentaire. En avril dernier, le média d'investigation Disclose confirmait la présence d'armes françaises au Yémen. Cette information a attiré l'attention sur les exportations d'armes européennes vers des pays impliqués dans le conflit au Yémen, où l'Arabie Saoudite et l'Iran se livrent depuis 5 ans une guerre par procuration. Mais cette révélation des exportations d'armement des puissances occidentales au Yémen par le biais de l'Arabie Saoudite a-t-elle eu un impact sur le terrain? On va retrouver Laurent Bonnefoy, depuis Oman, qui est politologue chargé de recherche au CNRS. Il y a 10 mois, Laurent Bonnefoy, ce média en ligne Disclose confirmait donc la présence d'armes françaises au Yémen en s'appuyant sur des documents classés confidentiels défense, transmis à Emmanuel Macron et à la ministre de la Défense, Florence Parly, lors d'un conseil restreint de défense, c'était le 3 octobre 2018. Alors plusieurs ONG avaient déjà alerté sur ce sujet, mais jusqu'ici, les autorités françaises avaient nié l'utilisation de ce matériel français contre des civils au Yémen. Quel a été l'effet de cette annonce? Laurent Bonnefoy.
De fait, hein, ça, c'était une révélation bien montée, très fine, comme vous l'avez dit, avec des documents qui étaient d'une certaine manière accablants. Mais l'effet a été assez réduit, je pense, au final, tout simplement parce que la pression médiatique et l'intérêt pour le conflit yéménite est dans le même temps retombé. C'est-à-dire qu'on a eu quelque chose de très circonstanciel. Je pense que les autorités françaises ont fait d'une certaine manière le dos rond et ça n'a pas changé grand-chose. Mmh. Il demeure malgré tout que cette entrée, je dirais, par la question des armes, des contrats d'armement passés entre les puissances régionales du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et puis les Émirats Arabes Unis et les puissances européennes ou occidentales, parce que les États-Unis sont évidemment les premiers concernés, eh bien, ont été une entrée très significative pour mobiliser sur le Yémen, au même titre que la situation humanitaire. Et c'est là où c'est quelque chose d'intéressant, je pense que c'est finalement quelque chose d'assez neuf par rapport à tous les conflits. Et il y a effectivement un effort très important mené par certains journalistes d'investigation, dont Disclose a été, je dirais, à la pointe, et puis aussi des ONG, que ce soit Amnesty International, la CAT en France ou bien CAT en Grande-Bretagne. Malheureusement, on constate que malgré tout, l'exécutif, et même quand il y a une mobilisation du côté du pouvoir législatif, eh bien, l'exécutif arrive d'une certaine manière toujours à obtenir gain de cause et puis à laisser passer, je dirais, la crise.
Des journalistes qui, par ailleurs, ont subi des pressions, puisque à la suite de cette enquête, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour compromission du secret de la défense nationale. Alors, il n'y a pas de poursuite qui avait été engagée contre ces journalistes soupçonnés de violation du secret défense. Il n'empêche que ça constitue quand même clairement un signal, en tout cas une pression sur la corporation. À la suite de cette révélation, Laurent Bonnefoy, il y avait eu autre chose, c'est qu'on avait évoqué la possibilité de mettre en place une commission parlementaire. On en est où de ça?
La commission parlementaire en France, je dirais, est un vieux serpent de mer. Hein. Depuis début 2016, il y a effectivement des velléités de mettre en place une telle commission, avec notamment un ancien député République En Marche, Sébastien Nadeau, qui a poussé. Aujourd'hui, cette initiative, elle semble, je ne sais pas si on doit dire abandonnée, mais en tout cas, chacun a compris que rien de tel ne se produirait. Encore une fois, parce que l'exécutif considère que soit c'est sa chasse gardée, soit il y a trop d'enjeux économiques et de fait, hein, des enjeux et le montant des contrats est absolument astronomique. Hein. On parle de 6 milliards d'euros au cours des 5 dernières années. Ce sont des chiffres qui sont très significatifs, tant et si bien que pour la France, l'Arabie Saoudite est le second client, et pour l'école de la Grande-Bretagne, qui aussi est concernée par le même type de questions, c'est le premier client des industries d'armement.
Laurent Bonnefoy, qu'est-ce qu'on sait des armes françaises qui ont été justement utilisées au Yémen? Et dans quel cadre? Je veux dire, est-ce que c'est finalement des armes qui sont importantes dans le dispositif militaire ou finalement elles sont assez secondaires?
ce que je pense, et puis d'une certaine manière, je veux dire, disclose dans ses révélations, accepter de considérer que c'était le cas. Elles ne sont pas centrales dans le dispositif de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Les bombardements sont menés essentiellement avec du matériel britannique et américain.
Faisons une hypothèse, Laurent Bonnefoy. Est-ce que vous pensez que la guerre au Yémen serait terminée si l'embargo sur les armes avait été respecté ?
Non, je crois pas. Alors, quand on parle d'embargo sur les armes, de fait, et selon les résolutions du Conseil de sécurité, il ne concerne que la rébellion houthiste contre laquelle, avec l'accord de la communauté internationale, la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite se bat. Donc l'idée que finalement le conflit serait alimenté uniquement par l'extérieur à travers ses armements, moi me semble assez spécieuse d'une certaine manière. Elle néglige toutes les dynamiques internes, notamment liées au fait que une partie de l'armée, qui était extrêmement bien équipée, avait pu accumuler énormément de matériel, eh bien, c'est rangé du côté de la rébellion. Et donc, dans ce cadre-là, et c'est un discours qui est porté aussi par l'Arabie Saoudite pour pointer du doigt l'apport iranien en soutien à la coalition, il y a tout un discours autour de ça. Malheureusement, ce levier, je dirais, des armements, que ce soit l'armement, enfin les contrats passés avec la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, ou bien l'embargo qui est violé prétendument et très vraisemblablement par l'Iran pour armer la rébellion, eh bien, ce levier-là ne mettrait pas fin à la guerre, parce que il y a aujourd'hui trop d'enjeux, trop de complexité, et finalement un conflit qui dure depuis 5 ans et qui a toutes les raisons de se poursuivre.
Si la France, Laurent Bonnefoy, avait été beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, au-delà de la question d'ailleurs purement du droit, beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis en leur disant qu'elle arrêterait de leur livrer du matériel si elle ne cessait pas ce conflit, est-ce que vous pensez que ça aurait pu avoir de l'effet ?
Alors ça aurait sans doute eu de l'effet dès lors que ça aurait été coordonné. Moi je pense que l'échelle européenne aurait sans doute été pertinente. Il se trouve que la diplomatie n'est pas un domaine dans lequel il y a une grande convergence à l'échelle européenne. Donc c'est cette échelle-là qui, je pense, aurait dû être mobilisée. Mais dans la mesure où il y a des intérêts financiers qui sont extrêmement importants, des phénomènes de concurrence entre les États, eh bien ça ne donne pas grand-chose.
Ça n'a pas eu beaucoup d'effet s'agissant du Parlement européen. En revanche, il y a un engagement qui a eu un effet, c'est celui de l'Allemagne, qui a réduit ses exportations à destination de Riyad.
Oui, tout à fait, mais ces exportations étaient finalement assez marginales par rapport aux enjeux d'autres pays. Mais encore une fois, il y a eu une lutte qui a été extrêmement importante entre l'Allemagne et puis l'Arabie Saoudite, avec des menaces, y compris juridiques, par rapport à certains contrats qui peuvent coûter très cher, mais aussi des pressions à l'intérieur de l'Europe. On a vu notamment la France et la Grande-Bretagne qui se trouvaient d'une certaine manière embarquées dans la décision allemande, tout simplement parce qu'il y avait un certain nombre de pièces qu'elle ne pouvait plus vendre, tout simplement parce qu'on a malgré tout une industrie qui est relativement intégrée, même si les intérêts au final sont parfois divergents des pays et les politiques également.
Laurent Bonnefoy, toute dernière question, et peut-être en quittant le volet purement embargo. Si on fait le bilan, la guerre au Yémen, elle a été lancée en avril 2015, voilà bientôt 5 ans. Aujourd'hui, la volonté de Riyad, c'est plutôt de s'en désengager. Et il semble malgré tout que cette guerre, elle se poursuit. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter cette guerre ? J'entends évidemment qu'il y a cette difficulté à trouver une solution politique sur le terrain. Mais une fois encore, formulons une hypothèse. On peut se mettre d'accord chez les Yéménites. Pourquoi cette guerre continue ?
Alors, je ne sais pas si on peut se mettre d'accord chez les Yéménites, c'est bien une des questions.
C'est le problème. Ouais.
Dans le sens où l'Arabie Saoudite, assez clairement aujourd'hui, est en train de chercher une porte de sortie. Ce qu'il y a, c'est que pour avoir une porte de sortie honorable, il faut trouver un certain nombre de concessions qui viendraient de la rébellion. Or, celle-ci est d'une certaine manière en position de force sur le terrain, tout simplement parce que eh bien la coalition et ses alliés localement sont fragmentés. Et c'est cette fragmentation qui, même si on trouverait quelque chose qui symboliquement pourrait, d'une certaine manière, plaire à l'establishment saoudien et tout particulièrement le prince Mohammed bin Salman, qui est sans doute celui qui a décidé et mis en place la guerre, sur le terrain, il est difficilement envisageable, ou on a du mal à percevoir quel pourrait être l'accord entre les parties yéménites. La guerre a d'une certaine manière quitté la une des journaux, même si elle l'a pas occupé de façon très fréquente, mais disons qu'aujourd'hui, depuis je dirais bien 6 mois, on parle très très peu du Yémen. Et même, je dirais que, d'une certaine manière, le quotidien de la guerre, les éphémérides des combats qui se passent concrètement sur le terrain, eh bien, échappent de plus en plus à plus en plus de monde, tout simplement parce que, eh bien, je ne sais pas si on doit accepter cette idée, mais la communauté internationale considère que finalement, elle peut s'en accommoder et que ça devient un conflit de basse intensité pour elle.
Mais c'est ça qui est frappant, Laurent Bennefoy, c'est que, précisément, ce n'est pas un conflit de basse intensité. Ça aurait pu le devenir, mais ça n'est pas le cas. Pourquoi ?
Non, c'est un conflit qui effectivement se trouve, je dirais, au carrefour de nombreux enjeux qui sont au cœur de l'agenda international. Hein. Y a cette question de la rivalité entre les États-Unis et l'Iran, avec l'Arabie Saoudite alignée sur les positions des États-Unis. C'est un test important aussi pour savoir dans quelle mesure les États-Unis sont disposés à protéger les Saoudiens face aux avancées iraniennes. Et puis, il y a aussi toute cette question du terrorisme. Alors, on a eu cette semaine un assassinat par drone d'un des leaders d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Mais cette branche locale de l'organisation fondée par Osama Ben Laden reste extrêmement active et en capacité de mobiliser un certain nombre de forces sur le plan local. En tout cas, il est illusoire, je pense, de considérer que la guerre aurait conduit à sa disparition. Et donc cet enjeu, je dirais, terroriste, aussi devrait, d'une certaine manière, mobiliser davantage la communauté internationale pour trouver une solution durable au conflit yéménite, qui effectivement va bientôt entrer dans sa 6e année.
Merci beaucoup à Laurent Bennefoy qui est avec nous par téléphone depuis Oman. Je rappelle, Laurent Bennefoy, que vous êtes auteur notamment de cet ouvrage « Le Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre » qui était paru aux éditions Fayard. Un grand merci également à Ali Ben Saad qui est avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence. J'en profite d'ailleurs pour remercier les techniciens qui nous ont permis de faire ce duplex. Et puis un grand merci à vous, Aymeric Elouin, d'avoir été avec nous ce matin ici en plateau. Très belle chanson qu'on entend là à l'instant, Yatim, par une chanteuse d'origine yéménite, Shiran. On mettra évidemment la référence de ce titre sur la page de Culture Monde. 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Hier, vous avez esquissé un portrait bilan d'Angela Merkel. Des retouches à apporter ce matin, Brice ?
Eh oui, parce que j'ai été regarder ce qu'en dit le dictionnaire amoureux de l'Allemagne, récemment publié chez Plon. L'auteur de ce dictionnaire amoureux, Michel Meyer, un journaliste chevronné de France Télévisions et de Radio France, est réputé comme l'un des meilleurs connaisseurs de l'Allemagne contemporaine. Il y a séjourné à plusieurs reprises comme correspondant, tant côté RFA que RDA. Il connaît bien la culture allemande comme l'histoire de ce pays. Angela, finalement, et plus que tout, aime l'harmonie, disait d'elle son père, luthérien, rapporte Michel Meyer. D'où sa manière d'éviter le conflit ouvert et une relative indifférence aux affronts. Ce n'est pas une dame de fer, mais une dame téflon. Écrit Meyer, non seulement rien ne semble l'atteindre, mais elle ne prend jamais franchement parti. Dans le même ordre d'idées, l'auteur lui reconnaît une qualité très particulière. Une capacité à pressentir chez ses interlocuteurs toute fragilité psychologique, le besoin de contrebalancer par le pouvoir une secrète blessure. On devine combien cette faculté de la chancelière a pu la servir et la sert encore face à ses interlocuteurs français. Mais ce que tant d'étrangers prennent chez nous pour de l'arrogance, n'est-il pas dû à un phénomène classique de compensation face à une Allemande ? Depuis 1870, en effet, nous avons accumulé tant de défaites sur à peu près tous les plans, des champs de bataille au commerce extérieur. Et les grandes intentions de Macron pour l'Europe, gouvernement économique de la zone euro, doté d'un budget d'investissement, harmonisation fiscale et j'en passe, se sont vus opposer une force d'inertie redoutablement efficace.
Alors Michel Meyer explique la psychologie d'Angela Merkel par ses années de formation, bref.
Oui, parce que la chancelière de l'Allemagne réunifiée et triomphante d'aujourd'hui a vécu sa jeunesse dans l'autre Allemagne. La République démocratique, grise, pauvre, policière, soviétisé. Dans un pays où tout dépendait de l'État parti, obtenir l'autorisation de poursuivre des études, un emploi, un logement, bref, surnager, exigeait d'offrir les apparences de la docilité. Merkel sait d'expérience que l'on ne survit qu'en cachant son jeu, écrit Michel Meyer, et elle ne se laisse jamais décontenancer. Une longue accoutumance au silence sur ses sentiments l'a blindée pour la vie. Le père d'Angela Merkel, auquel je faisais allusion, faisait partie de ces idéalistes qui avaient choisi la RDA par horreur de l'américanisation choisie de l'Allemagne de l'Ouest pour sortir de la guerre. Il aurait rêvé d'une troisième voie entre capitalisme et communisme qui aurait été pacifiste et écologiste. Angela elle-même serait, je cite encore, « politiquement plus proche des Verts qu'elle ne l'avouera jamais ». Selon Michel Meyer. Il n'a pas été étonné plus que ça, donc, par la brutale décision de la chancelière d'abandonner la filière nucléaire et il écrit « La pénurie d'électricité qui en résulte est comblée en brûlant du charbon polonais et du gaz russe dans des centrales thermiques qui crachent du CO2 à profusion. » On s'en veut de réduire un ouvrage de 800 pages, extrêmement dense, à un seul de ses articles, mais c'est la loi du genre. Et sachez que vous trouverez dans ce dictionnaire amoureux de l'Allemagne aussi des portraits comme celui des frères Humboldt, Wilhelm, le linguiste dont la statue blanche vous accueille devant l'université de Berlin, qu'il a fondée, et son cadet Alexander, le savant aventurier le plus risque-tout de son temps, dont les relations de voyage dans le monde entier seront pillées par notre Jules Verne national. Mais c'est l'entrée consacrée à l'ordolibéralisme qui m'a le plus retenu dans ce dictionnaire. Michel Meyer y explique en effet en quoi la doctrine qui a permis le miracle économique allemand d'après-guerre prenait l'exact contre-pied de l'économie administrée à la mode nazie. Hjalmar Schacht, auquel une bande dessinée est consacrée en ce moment en deux tomes, Le banquier du Reich, était une espèce en effet de keynésien allemand. Et la politique qu'il a menée en tant que ministre de l'économie de l'État nazi entre 1934 et 1937 était mercantiliste, protectionniste, autarcique. La relance économique de l'Allemagne à cette époque, sous Hitler, s'apparentait par bien des aspects au New Deal mené en même temps aux États-Unis par un président de gauche, Roosevelt. Grands travaux publics financés par la dette, mobilisation de la main-d'œuvre. Les idéologues nazis, comme Gottfried Feder, entendaient, je cite, « remettre l'économie à sa place » et proclamaient « le primat du politique et de la volonté nationale ». Les ordo-libéraux d'après-guerre réagirent à ces folies en prenant quelques principes qui sont encore d'actualité dans l'Allemagne d'aujourd'hui. L'État doit assurer le bon fonctionnement des marchés. Il ne doit pas intervenir de matière discrétionnaire en fonction des lubies du gouvernement du moment, mais respecter des règles qui soient connues de tous. Cela permet aux acteurs économiques de faire des prévisions, de s'entendre entre eux. La monnaie doit être solide, garantie contre l'inflation et le budget visé à l'équilibre. Eh bien, ce sont ces règles simples qui ont assuré le redressement puis le succès économique de l'Allemagne.
Merci beaucoup Brice Couturier, donc le dictionnaire amoureux de l'Allemagne, Michel Meyer, chez Plon.